Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+ sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier, pardon, grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Francky et Nicolas à la technique. Bonjour Francky, bonjour Nicolas. Les mandats. L'ADN du MEDEF. Saviez-vous que le MEDEF Île-de-France compte près de 3000 mandataires engagés dans les différentes instances du territoire francilien? Qu'en est-il du MEDEF du Val d'Oise? Ce matin, mardi 10 juin 2025, focus sur cette précieuse représentation patronale qui permet en toute légitimité requise de s'exprimer dans le cadre du dialogue social. Pour en parler, j'accueille Jeanne Dorry-Josselin, déléguée générale MEDEF du Val d'Oise. Bonjour Jeanne.
Bonjour Mathieu.
Jean Casal, dirigeant de AF Conseil et Securitis, DRH de PAC Sécurité et Cortesia Sécurité, président du Conseil des Prud'hommes de Pontoise. Bonjour Jean.
Bonjour Jacqueline.
Et Marine Lacaille, conseillère prud'homale au CPH de Pontoise. Bonjour Marine.
Bonjour Jacqueline.
Chacune et chacun avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir en quoi consiste le fait d'être mandataire et plus spécifiquement mandataire au Conseil des Prud'hommes, une juridiction d'exception dans le sens où elle est la seule compétente pour régler les litiges individuels en droit du travail. Merci pour votre présence dans nos studios et d'être les invités en direct sur IDFM Radio dans cette spéciale MEDEF Val d'Oise. Une émission à retrouver à tout moment en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr. Mais juste avant de vous donner la parole, je vous propose de retrouver par téléphone notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, pour sa chronique « Décryptons le monde ».
IDFM Radio, le média valdoisien.
Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline et je salue également vos invités et tous nos auditeurs.
Merci Gérard. Alors ce matin, vous nous proposez pour votre chronique un titre assez provocateur. L'Ukraine va-t-elle contraindre la Russie aux négociations? Alors que nous voyons plutôt une Russie continuer ses activités militaires et refuser le principe d'un cessez-le-feu, comment l'Ukraine, à elle seule, pourrait-elle inverser cette situation, Gérard?
Vous avez raison, Jacqueline. Vous décrivez la situation jusqu'à la fin du mois de mai. Mais des événements depuis le mois de juin peuvent modifier les cartes et donc la position de la Russie. Depuis une semaine, nous avons assisté à des interventions ukrainiennes militaires ou de sabotage sur le sol russe, alliant surprise, efficacité et conséquences militaires. Les Ukrainiens ont commencé par mener des opérations de sabotage ferroviaire en territoire russe, à un peu plus d'une centaine de kilomètres de leur frontière, puis une innovante opération sur 4 bases aériennes russes, dont l'une distance de 4000 kilomètres de leur frontière. Et enfin, une autre opération de sabotage sur le pont reliant la Crimée au territoire russe. Ces opérations techniquement diversifiées, réparties sur le territoire de la Russie et menées en quelques jours, vont avoir pour les militaires russes des répercussions sur le champ de bataille et dans le temps. Donc, des conséquences politiques.
Oui, alors pouvez-vous nous rappeler brièvement en quoi ces 3 opérations ont consisté?
Brièvement, je vais essayer. Le sabotage de 2 ponts ferroviaires en Russie va rendre plus difficile ou ralentir la logistique de l'armée russe dans la région du front nord vers la ville ukrainienne de Soumy où la Russie exerce une nouvelle pression. Les frappes de drones, deuxièmement, sur les 4 bases aériennes très éloignées du front ont fait perdre à la Russie environ 20% de sa flotte de bombardiers stratégiques, ce qui est énorme. Ces avions sont utilisés pour lancer des missiles sur les villes ukrainiennes. Enfin, le fait d'avoir mené une opération de sabotage sur le pont reliant la Russie à la Crimée rappelle la fragilité de cet axe d'accès symbolique et essentiel pour la Russie sur le front sud.
Quelles conséquences ces 3 opérations vont-elles avoir sur les combats, la stratégie militaire russe et la position politique de la Russie?
Selon moi, et les Russes ne vont nullement le reconnaître, les effets seront réels, profonds et porteurs de conséquences dans le temps. Les destructions de plusieurs dizaines de bombardiers au sol sur des bases éloignées, de la mer de Barents à la Sibérie, donnent une autre dimension militaire à ce conflit, à savoir l'intérieur profond de la Russie. Cette opération baptisée « toile d'araignée », hautement créative, a fait rentrer des armes tactiques, des drones, comme support de frappe à longue distance d'objectifs stratégiques des bombardiers. Ce saut stratégique et créatif va amener l'état-major russe à beaucoup, beaucoup réfléchir sur la répartition de ses moyens. En outre, ces trois opérations ont touché des voies ferroviaires, des moyens aériens et une infrastructure maritime, un pont de 19 km. Les opérations ont touché les trois domaines, terre, air, mer, en trois jours. L'état-major russe va en subir les conséquences. Renforcement de ses protections aériennes intérieures au détriment du front et réduction de ses moyens de bombardement de l'Ukraine. À L3, ces opérations n'ont coûté que quelques millions d'euros à l'Ukraine. Et les destructions en Russie vont se compter en milliards d'euros. Elles révèlent ainsi une capacité offensive ukrainienne, non pas sur le front, mais sur l'ensemble du territoire russe. Ces éléments militaires, économiques et psychologiques vont agir d'une façon ou d'une autre sur l'esprit des chefs militaires et des hommes politiques.
Et iriez-vous jusqu'à dire, Gérard, que ces événements vont également avoir un impact sur la population russe et sur le regard que les Russes portent sur cette guerre ?
Oui, je n'hésite pas à donner une réponse positive. Les attentats sur les voies ferrées et le pont de Crimée, les opérations de bombardement sur quatre bases aériennes créent obligatoirement, par l'effet de surprise et d'ampleur, un état psychologique nouveau chez les officiers, les soldats et la population. Elles vont avoir pour résultat, au niveau de la société russe, d'augmenter de façon significative la lassitude du peuple russe vis-à-vis de cette guerre. Certes, un pouvoir autoritaire n'a pas pour habitude d'écouter ses concitoyens, mais c'est le peuple qui fournit les soldats, c'est le peuple qui fait la guerre, pas les élites dirigeantes. Si dans un sondage récent, 90% des Russes soutiennent Poutine, 60%, donc les mêmes, souhaitent la paix. Ces dernières opérations ukrainiennes inattendues et fortes ne pourront que faire augmenter ce dernier pourcentage. Si le même institut de sondage russe, le centre analytique Levada, effectue un autre sondage dans quelques semaines, il ne serait pas surprenant que le pourcentage de la population souhaitant la paix augmente.
Donc vous considérez que cette première semaine de juin constitue un tournant dans cette guerre ?
Vous connaissez mon esprit positif, Jacqueline. J'irai donc jusqu'à dire qu'elle constituera avec le recul un tournant vers la paix. La Russie ne signera pas un cessez-le-feu demain matin, bien sûr. Elle mènera probablement des représailles, mais elle sera amenée à rester à la table des négociations.
Souhaitons-le, Gérard. Merci infiniment pour votre analyse très méthodique et claire. Espérons en effet que le peuple ukrainien puisse rapidement voir l'arrêt des combats. C'est sur cette vision optimiste que nous terminons ce matin notre chronique « Décryptons le monde ». Vous pouvez retrouver toutes les interventions et articles de notre chroniqueur Gérard Vespierre sur son site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement est gratuit, il suffit juste de s'inscrire. Merci Gérard et à bientôt.
Merci Jacqueline.
Un peu de musique avant de poursuivre avec mes invités. Ne partez pas, nous revenons dans quelques minutes.
Alive, won't you be alive? You see before, BFM Radio, bien plus qu'une radio.
Nous venons d'écouter Patrick Hernandez, Born to be Alive. Vous êtes bien sur IDFM Radio et c'est l'économie en direct avec à mes côtés Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF Val-d'Oise, Jean Cazal, président du Conseil des Prud'hommes de Pontoise et Marine Lacaille, conseillère prud'homale au CPH de Pontoise. Le magazine Jeanne Berry, le magazine Cap IDF du Val d'Oise de mai donne la parole à son président Frédéric Anfray.
Tout à fait.
Qui rappelle que le MEDEF est la première organisation patronale de France parce que largement majoritaire en termes d'audience salariée.
Oui.
63%. Un MEDEF qui ne relâche pas ses efforts dans sa représentativité auprès de toutes les instances, privées ou publiques.
Alors, quand on parle d'audience salariée, ça surprend toujours côté organisation patronale, mais en fait, il faut expliquer ce que ça veut dire. De la même façon qu'on calcule l'audience des syndicats en fonction du nombre de salariés qui votent pour eux, on applique en réalité un calcul assez proche pour les organisations patronales, c'est-à-dire que ce qui compte n'est pas le nombre d'entreprises dans chaque organisation, mais le nombre de salariés dans chacune des entreprises qui sont adhérentes aux organisations patronales. Ça a du sens parce que effectivement, c'est pour comparer les masses. Et quand on fait ce calcul-là, c'est effectivement le MEDEF qui est très largement majoritaire, ce qui explique une répartition dans la plupart des mandats, mais pas dans tous, quand même, mais dans la plupart, en ce qu'on appelle 6-3-1, 6 représentants pour le MEDEF, 3 pour la CPME et 1 pour l'UDP. Ce qui fait que c'est vrai que dans beaucoup de mandats, la décision, entre guillemets, des mandataires MEDEF l'emporte. Après, il y a différents types de mandats et on va en parler ensuite. Il y a des mandats où on a un enjeu de doctrine, une position très affirmée qui est travaillée avec nos mandataires. Il y a des mandats où les mandataires qui ne sont plus réellement des mandataires sont beaucoup plus indépendants et c'est important. Et c'est le cas, par exemple, des conseils de prud'hommes et des tribunaux de commerce.
Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette précision parce que je me suis posé la question lorsque j'ai préparé le dossier en parlant de cette audience salariée. Donc, merci infiniment. Je voulais dire que dans ce magazine, Frédéric Anfray, justement, fait un clin d'œil particulier aux mandataires qui portent la voix de ses adhérents, les adhérents du MEDEF, bien sûr. Alors, Jeanne, expliquez-nous en quoi ces mandats patronaux constituent un outil d'influence essentiel pour promouvoir les valeurs et les intérêts de l'entreprise.
On le sait moins aujourd'hui, mais effectivement, les mandats, c'est le cœur du rôle des organisations patronales. C'est un outil d'influence essentiel parce que, vous l'avez dit, il y a beaucoup de mandats. On en parle assez peu, mais en fait, les organisations patronales représentent les chefs d'entreprise, qu'ils soient adhérents ou non, dans l'intégralité des instances liées au monde du travail. Donc il y a ceux qu'on connaît, les conseils de prud'hommes, le tribunal de commerce, mais il y en a beaucoup d'autres, la CAF, l'URSSAF, les instances liées au transport. Dès que soit on paye quelque chose, soit ça touche le monde du travail, vous aurez des patrons qui seront là pour dire notre position sur ce sujet, c'est ça, et l'intérêt de nos entreprises, c'est ça. Ça ne veut pas dire que leur position va contre l'intérêt des salariés, attention.
Bien sûr,
voilà, c'est notre rôle. Évidemment, il y a beaucoup de décisions qui dépendent de ce dialogue social qui est toujours paritaire. En fait, on parle des mandats, mais quand on parle des mandats, on parle du paritarisme. Le paritarisme, c'est le côté organisation syndicale et organisation patronale qui échangent ensemble pour trouver des solutions pour les chefs d'entreprise, les salariés qui conviennent au mieux aux besoins des travailleurs. Et effectivement, c'est un rôle très important qui maintenant est moins perçu par les gens, mais c'est ce qui fait que le MEDEF en tant qu'organisation patronale n'est pas juste une association de chefs d'entreprise locaux. Notre rôle n'est pas que de faire du réseautage. Il y a un vrai rôle stratégique pour la défense des intérêts de chacun et de l'économie du pays.
Alors à la question qu'est-ce que être mandataire, moi j'ai repris les termes de Franck Le Floch, qui est directeur adjoint au pôle adhérent et mandat au MEDEF. Il dit que c'est un engagement au service du collectif, une transmission, une acquisition de compétences et d'expertise. Et il dit aussi c'est se confronter à d'autres expériences. Alors, peut-être que Jean Cazal et Marine pourront nous en parler tout à l'heure. Il parle d'une école pratique comment il dit, être mandataire, c'est un atout pour le chef d'entreprise, car c'est une école pratique du droit social et une formation continue de l'employeur.
Bien sûr, oui, tout à fait. En réalité, un chef d'entreprise ou un DRH, un DAF qui prend un mandat, puisqu'il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui ont des mandats, il y a beaucoup d'entreprises où c'est aussi des salariés qui prennent des mandats de représentation des organisations patronales, ça existe. C'est toujours des salariés qui ont des postes de direction, mais ça existe. L'intérêt, c'est que ça va clairement aussi former la personne qui porte le mandat. Je pense qu'on oubliera en effet largement tout à l'heure, mais quand on est à un conseil de prud'homme, on voit des cas qui ne sont pas forcément des cas qui nous sont déjà posés dans notre entreprise, et donc on apprend aussi quelle est la bonne pratique, quelle est entre guillemets la jurisprudence à appliquer pour éviter de faire demain des choses qui pourraient nous nuire ou nuire au bien-être des équipes. C'est très formateur, et souvent les chefs d'entreprise qui ont des mandataires dans l'une ou l'autre des institutions, que ce soit ou que ce soit leurs équipes, nous disent on a beaucoup appris, on a beaucoup progressé en s'appuyant sur cette sorte de formation via les mandats, puisque en plus il y a plusieurs mandats dans lesquels on prend la charge en tant que MEDEF de former les mandataires au cours de l'année pour qu'ils gardent un niveau de compétence, qu'ils soient au courant des évolutions. Et voilà, et c'est une formation supplémentaire qui est évidemment gratuite pour l'entreprise, que nous on propose. On en propose pour les mandataires, on en propose aussi pour les adhérents par ailleurs sur les bonnes pratiques, sur le document unique, les risques de maladie professionnelle. Voilà, c'est au quotidien continuer à former les équipes, les chefs d'entreprise pour avoir des entreprises qui fonctionnent bien et sur lequel toutes ces problématiques sociales sont le moins importantes possible.
Complètement. Pendant que vous vous exprimiez, Jeanne, j'ai pu voir Marine et Jean opiner du chef, donc vous confirmez, Marine et Jean, ce que vient de dire Jeanne, bien sûr,
oui,
Jean
oui,
Cazal.
Oui, tout à fait.
Marine oui. aussi.
Une évidence, ce que vient de dire Jeanne. C'est tout à fait vrai. C'est qu'il y a un avant et un après quand finalement on prend son rôle à cœur aussi, qu'on s'y investit.
Bien sûr.
Qu'on s'y intéresse à la base et qu'après on s'y investit parce que ça va nous entraîner. Oui. Il y a des formations qui sont au fur et à mesure aussi et qui nous permettent de nous bonifier. Et donc, du coup, ça fait un centre d'intérêt qu'on n'a pas forcément dans notre quotidien, dans nos entreprises.
C'est vrai, oui, ça vous donne un autre aspect de l'activité.
Exactement.
Donc, vos adhérents ont accès à tous les mandats, bien sûr.
Alors,
pas forcément.
Oui. Il faut, alors, ça me permet d'aborder quelque chose d'important. Il faut être adhérent pour avoir accès au mandat,
déjà,
quel qu'il
ouais,
soit. C'est obligatoire. C'est pas parce qu'on veut faire payer des mandats comme certains peuvent le dire. C'est parce que la loi est faite comme ça. Il faut soutenir une organisation patronale ou une organisation syndicale. C'est pareil du côté des syndicats. Il faut être adhérent d'un syndicat pour avoir un mandat, pour pouvoir être mandataire, parce que le paritarisme est fait comme ça. Ensuite, évidemment, nous, on ne donne pas des mandats comme ça. On fait un travail avec les chefs d'entreprise qui sont adhérents au MEDEF pour savoir qui est le plus apte à représenter au mieux les chefs d'entreprise dans tel ou tel mandat. Ça, c'est pour les mandats où il y a de la doctrine, de la stratégie, etc. Pour les mandats type CPH et tribunal de commerce, là, vraiment, on fait un travail de fond, et avec Jean, en ce moment, on le fait, sur le fait de recevoir les candidats, de voir quelles sont leurs compétences, s'ils ont les compétences suffisantes pour intégrer ce mandat. Même s'il y a une formation préalable à ce mandat, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut quand même quelques bases juridiques et aussi comprendre ce que ça veut dire d'aller demain juger dans un conseil de prud'homme, d'avoir un certain sens d'être objectif, de savoir rester neutre, d'écouter, de connaître le sens de la justice. Enfin, c'est pas si simple, donc non, on peut pas dire je vais juste payer une cotisation à une organisation patronale et demain je vais être mandataire. Évidemment qu'on filtre, évidemment qu'on est très prudent sur la question, parce que de toute façon, si on nomme un mauvais mandataire, peu importe où, le lendemain, c'est nos chefs d'entreprise qui le payent. Donc on est très vigilants là-dessus, effectivement, c'est vraiment important pour nous.
En fait, vous appliquez la méthode du tribunal de commerce, c'est-à-dire vous faites une sélection, vous recevez les personnes et vous les...
Oui, mais qui est une sélection objective, en fait, pas d'intérêt. C'est vraiment une sélection d'efficacité.
Complètement.
Moi, c'est... demain, si on a des mandataires, alors je rappelle quand même que c'est le président Frédéric Anfray, hein, en premier qui nomme les mandataires. Si on a des mandataires qui sont pas efficaces parce qu'on a donné un mandat pour faire plaisir à quelqu'un, c'est vraiment, oui, ça va être compliqué pour nous. Ça crée des tensions avec les autres mandataires. Enfin voilà, c'est vraiment un système à bien penser, bien organiser pour qu'il fonctionne toujours de façon optimale pour tous.
Vous n'avez pas de difficulté à trouver des mandataires ?
Ça dépend. Ça dépend aussi comment on présente les choses, hein. C'est toujours pareil. Si on présente les mandats juste comme quelque chose qui va prendre du temps à un chef d'entreprise qui n'en a déjà pas beaucoup, évidemment que personne ne va vouloir le faire. Il faut leur dire quel est leur intérêt là-dedans et pourquoi c'est important. On a aussi des gens qui sont mandataires depuis longtemps, tout à fait passionnés. Alors eux, on a même du mal à les freiner parfois en leur disant évidemment tu es compétent là-dessus, mais c'est plus possible, tu vas exploser. On a des gens qui découvrent les mandats. C'est aussi pour ça, on en avait déjà parlé. Moi, on a pris la décision avec le conseil d'administration de créer un tarif jeune pousse, parce que on a comme volonté de faire découvrir les mandats à des jeunes chefs d'entreprise et en faire au plus tôt des militants de la cause des chefs d'entreprise. Mais voilà, il y a tout un travail à mener pour faire connaître quand même ce principe, pour aussi mobiliser des gens qui représentent toutes les catégories de la société et des chefs d'entreprise et avoir une parité aussi optimale que possible dans nos mandataires. C'est pas évident. On parle des difficultés d'engagement en général. Évidemment, ça nous touche aussi.
Oui.
Donc voilà, c'est un travail de fond à mener au quotidien pour expliquer, pour faire s'intéresser les gens. Mais là, typiquement, on est dans une période de renouvellement des conseils de prud'hommes. On a des gens qui s'y intéressent. Faut réussir à les mener jusqu'au bout. Mais ça n'a pas disparu complètement.
Mmh. Oui, je comprends. Alors vous disiez, Jeanne, que pour être mandataire, il faut être adhérent.
Oui.
Mais à l'inverse, est-ce que le fait d'être mandataire, ça peut être un levier d'adhésion ?
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent nous voir pour être mandataire ? Oui. Oui, alors c'est là où attention, c'est-à-dire que moi quand je reçois ces candidats mandataires, je leur dis vous ne pouvez pas candidater sans être adhérent. Donc l'ordre, c'est déjà adhérer. Mais c'est pas parce que vous adhérez que je vais quand même vous donner le mandat demain, parce que si on faisait comme ça, effectivement, oui, ça serait... on vendrait des mandats. Donc non, on le préalable pour pouvoir être auditionné, vu, etc., c'est évidemment d'adhérer, mais moi, je ne promets jamais de mandat à qui que ce soit, déjà parce que le mandat ne m'appartient pas, hein. C'est le président, le conseil d'administration qui décide des nominations. Ensuite, parce que ça ne correspondrait pas à l'esprit qu'on cherche à montrer pour le paritarisme, pas du tout.
Très bien. Merci beaucoup, Jeanne. Je crois que vous avez une actualité à nous annoncer pour le mois de juin.
Oui, tout à fait. On reçoit Patrick Martin en juin au MEDEF. Alors ça va être un événement pour le coup plutôt réservé aux adhérents. On souhaite qu'ils puissent échanger avec lui et découvrir aussi ce que défend le MEDEF national. Beaucoup connaissent nos sujets, mais certains en sont plus éloignés. Donc c'est important de montrer que être adhérent d'une organisation patronale, c'est pas juste être adhérent, c'est aussi être militant, défendre des intérêts. Et voilà, on espère que ce sera un moment joyeux, dynamique et qui permettra à chacun d'échanger, de poser ses questions. Voilà, et c'est une belle mise en lumière de notre territoire. On est ravis de le recevoir, évidemment.
Bah écoutez, merci infiniment. Alors, peut-être pour aller dans votre sens, j'ai lu que ces mandataires doivent précisément rendre compte au MEDEF, hein, de leurs actions afin de nourrir la réflexion commune en vue de chercher des solutions collectives et puis faire évoluer la doctrine. Vous en parlez un petit peu, tout à l'heure.
Tout à fait. Eh ben, ça va dans les deux sens. Alors, nous, il y a beaucoup de mandats, donc on est aussi aidé par le MEDEF national qui nous donne des éléments pour nous dire dans quel sens on travaille sur les différents sujets, dont on peut débattre par ailleurs, mais voilà, on les prend. Et à l'inverse, on attend des mandataires qui nous renvoient aussi les informations que eux ont locales, s'il y a des difficultés, une problématique particulière qui a été identifiée. Tous les départements sont différents. On dit souvent le Val d'Oise est le département le plus jeune de France hexagonale. Mmh. Évidemment, il y a certaines particularités dans certains mandats, et c'est à nous de faire le relais avec les instances nationales et dire bah voilà, dans le Val d'Oise, à cet endroit, on a identifié un problème qui peut-être nous arrive à nous en premier parce qu'on a une population très jeune, mais qui va se poser demain. Et c'est des indicateurs importants aussi sur le monde du travail, son fonctionnement, ses dynamiques. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant.
Rappelez-nous comment on peut être adhérent au MEDEF.
Eh ben, il faut me contacter ou contacter Antoine Le Cozanet, que on avait reçu ici, qui est notre développeur et chargé de projets stratégiques. Il suffit soit de nous contacter via nos réseaux sociaux, LinkedIn notamment, soit de nous envoyer un mail. Et pour ça, vous pouvez écrire à Antoine. C'est son mail, c'est antoine.lecozanet tout attaché à medef95.fr. Donc n'hésitez pas à le solliciter. Il viendra à votre rencontre avec plaisir.
Des coordonnées qui se retrouveront sur le podcast, bien évidemment. Merci Jeanne pour cette sensibilisation de l'importance des mandats au sein du MEDEF et puis et des missions de chaque mandataire. Merci infiniment. Il est temps de faire une nouvelle pause. On va écouter Cœur de loup par Philippe Lafontaine, un titre un peu ancien, mais voilà, assez sympa, je trouve.
Cœur de loup, parle tant tout lui dire, parle tant tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon œillet lui fait de l'œil. Même ululé sous la lune ne me fait pas peur, pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Elle est si frélésie, sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. De mentir, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire,
de loup,
ni de
lit,
quitter la scène.
Et
elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime.
IDFM, 98FM.
C'est notre spécial MEDEF Val d'Oise avec une mise en lumière ce matin sur les mandats patronaux. Et ce matin, le Conseil des Prud'hommes, en compagnie de Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF Val d'Oise, Jean Casal, président du Conseil des Prud'hommes de Pontoise, et Marine Lacaille, conseillère prud'homale au conseil des prud'hommes de Pontoise également. Alors Jean Cazal, merci déjà pour votre venue à notre micro.
Merci Jacqueline de m'avoir invité.
Juste pendant la pause, nous avons évoqué deux sujets, donc je vais peut-être commencer, enfin peut-être non, je vais vous demander de vous présenter Jean. Dites-nous qui vous êtes et voilà votre un petit peu votre parcours en quelques mots.
Oui, très rapide, donc je m'appelle Jean Cazal. Alors cette année, en 2025, je ne suis pas président du Conseil des prud'hommes, mais vice-président, puisqu'il y a une alternance. Une année sur deux, c'est une présidence employeur, et une année et l'autre année, c'est une présidence salariée. Donc l'année dernière, j'étais président. Cette année, je suis vice-président. Et l'année prochaine, compte tenu de la nouvelle mandature 2026-2029, on verra qui se présentera. Mais la présidence reviendra au collège employeur.
Très bien.
Et si je suis nommé. Peut-être que je poursuivrai ma fonction de vouloir continuer à être président. Justement, pour une petite rectification,
je vous en prie.
Les mandataires au sein des conseils de prud'hommes sont proposés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. Et ce n'est pas parce qu'ils sont proposés qu'ils sont obligatoirement nommés par le ministre de la Justice et du Travail, puisque les deux ministères font attention de savoir si les personnes ont un casier judiciaire vierge. Mmh. Et puis pour d'autres raisons, ils peuvent aussi rejeter des candidatures proposé par les organisations, qu'elles soient syndicales ou patronales.
Oui, 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 vous faites bien de le préciser, parce que on aurait pu penser, quand Jeanne nous expliquait que c'était le MEDEF qui nommait, enfin Frédéric Anfray qui nommait, mais en fait il vous propose une liste et ensuite elle est acceptée ou pas.
Et tout à fait. C'est les organisations syndicales proposent des candidats. D'ailleurs, il y a une ouverture du portail qui va être bientôt fait le 16 juin, avec une ouverture du dépôt des candidatures qui se fera le 7 juillet et une date limite du dépôt des listes le 15 septembre 2025 pour la mandature 2026-2029. Et les candidats qui seront proposés, s'ils sont tous nommés, ou ceux qui seront nommés, le seront par un arrêté de nomination du 15 décembre 2025.
Très bien. Alors, vous-même, vous êtes toujours en activité?
Tout à fait, tout à fait. Je suis dirigeant d'une société de sécurité privée et d'une société de conseil. Et par ailleurs, je suis DRH de deux sociétés à temps partiel. En plus de ma fonction de conseiller prud'homme et de président-vice-président dans le cadre de l'alternance, et je siège également au tribunal judiciaire de Pontoise en qualité d'assesseur.
Très bien. Et vous arrivez à tout,
oh là,
à tout gérer?
C'est très compliqué, non pas pour tout gérer, mais tout particulièrement pour la rédaction des jugements.
Oui, c'est ça.
Rédaction des jugements qui... Ça prend à peu près 7 heures en moyenne par jugement, et donc la plupart de mes jugements, je les fais le week-end, au détriment de ma vie personnelle. Mm-hmm. Mais bon, voilà,
c'est un engagement.
C'est un engagement, et j'essaie d'exercer ma fonction du mieux que je peux. Bien évidemment, on prend du retard lorsqu'on a trop d'activités, et parfois les avocats envoient des courriers en réclamant leur jugement. Mais bon, ça fait partie de la vie.
Oui,
ce n'est pas qu'à Pontoise, c'est au sein des 211 conseils de prud'hommes en France. Parce qu'il faut rappeler qu'en France, il y a 211 conseils de prud'hommes et 14 512 sièges réservés aux conseillers prud'homaux, donc sur le territoire national. La particularité des conseillers prud'hommes, c'est qu'il y a une double parité. Parité, donc organisation syndicale et salariale, et aussi la parité homme-femme.
Oui.
Puisque parmi les 14 512 conseillers, moitié sont des salariés et d'autres qui représentent le collège employeur, et en principe la moitié homme et la moitié femme.
Mmh, très bien. Quand vous parliez de la rédaction de vos jugements, est-ce que vous êtes en tant que président et vice-président, vous êtes en charge aussi de relire les jugements des juges qui font partie du Conseil des prud'hommes?
Alors non. La réponse est non, puisque au sein des conseils de prud'hommes, il y a 5 sections. Donc les sections encadrement, industrie, commerce, agriculture, activités diverses. Ces sections désignent des présidents et des vice-présidents de section qui, en principe, d'après le code du travail, doivent tout le temps présider. Et en cas d'empêchement, ce sont des suppléants qui sont élus et qui peuvent remplacer les présidents et les vice-présidents pour pouvoir présider les audiences. Et en règle générale, ce sont les présidents d'audience qui ont pour mission la rédaction des jugements. Des jugements, donc des décisions qui sont prises à quatre. Et s'il y a une égalité de voix en cas de vote, il faut faire appel à un juge départiteur.
D'accord.
Il faut quand même parler de du juge départiteur qui doit intervenir en cas de partage de voix. S'il y a deux voix pour et deux voix contre un licenciement, dommage intérêt, etc. C'est un juge départiteur qui est issu du tribunal judiciaire qui vient, ce qu'on appelle, vider le partage et qui vient prendre une décision. Bien évidemment, lorsque les conseillers n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils perdent en quelque sorte une partie de la souveraineté de leur décision, puisqu'ils la confient à un cinquième juge qui vient vider le partage et prendre la décision. Voilà. D'accord. La particularité du conseil de prud'homme, c'est en cas de partage de voix, il y a un cinquième juge qui intervient.
Qui intervient, oui. Ça représente combien d'audiences par semaine ou par mois? Votre activité.
Alors, dans le Val-d'Oise, il y a trois conseils de prud'hommes. Il y a le conseil de prud'hommes de Montmorency, d'Argenteuil et de Pontoise. Pontoise, c'est là où j'exerce mes fonctions de président et vice-président. Il y a un jour qui est attribué par section à Pontoise, par exemple. Le référé, c'est le lundi. L'industrie, le mardi. Le commerce, le mercredi. L'encadrement, le jeudi. L'activité diverse et parfois l'agriculture, le vendredi.
Oui, mais alors vous, en tant que vice-président et président, vous êtes présent à toutes les...
Non.
Non,
non, non.
Oui, parce que là, c'est
non.
un vrai sacerdoce.
Non, pas du tout. Les présidents et vice-présidents de section doivent présider leurs audiences.
D'accord.
Et en cas d'empêchement... les suppléants d'audience qui ont été élus dans leur section. En ce qui me concerne, j'exerce ma fonction de président pour gérer un peu la vie active du conseil de prud'homme. Par ailleurs, je suis également président de la section encadrement.
Très bien.
Et je siège à l'encadrement. Donc, lorsque je préside, j'ai pour mission de présider l'audience, mais aussi de procéder à la rédaction des jugements.
Vous nous parlions du fait que c'est pas parce que des personnes se présentent qu'elles vont être nommées. Quelles sont les qualités essentielles que vous définiriez pour avoir ce poste au Conseil des Prud'hommes?
Alors, pour être conseiller prud'homme, il faut déjà avoir la volonté, la volonté, donc être adhérent, comme le rappelait Jeanne. Ensuite, il faut que le président du conseil d'administration du MEDEF valide la candidature. S'ils sont nommés par les deux ministères du Travail et de la Justice, il faut avoir quand même un minimum de connaissances en droit du travail, puisque le conseil de prud'homme, c'est une juridiction de l'ordre judiciaire qui règle les litiges entre les employeurs et les salariés. Donc il faut avoir un minimum de connaissances en droit du travail, puisqu'on applique les règles de droit. Il faut avoir une certaine appétence pour la juridiction, pour régler les litiges entre un employeur et un salarié. Il faut avoir le temps. Et puis un petit peu, puisqu'aujourd'hui on parle des mandats à MEDEF, un petit peu une certaine... appétence pour les employeurs, les entreprises, etc. En ce qui concerne les candidats employeurs, bien évidemment.
Je comprends, oui, bien sûr.
Sachant que quand on prend une décision lorsqu'on est en délibéré, on applique les règles de droit, mais on n'a pas de parti pris, ni salarié, ni employeur. On applique les règles de droit, voilà.
Absolument. Est-ce que on parle souvent des délais très longs de fin de jugement? Quels sont vos délais actuellement à Pontoise?
Alors, les délais au sein du Conseil de prud'hommes de Pontoise est d'environ 13 mois. 13 mois entre un salarié qui dépose sa requête introductive d'instance, après un bureau de conciliation et d'orientation. À Pontoise, on pratique également la mise en état. Ça permet aux avocats de respecter des calendriers, de déposer leurs pièces, leurs écritures. Et entre une requête en introductive d'instance et la décision, il faut compter en moyenne 13 mois.
D'accord, hein, 13 mois.
Plus ou moins, mais c'est une moyenne.
Un peu plus d'un an, quoi.
C'est ça.
On sait avec la situation économique actuelle que, enfin moi je sais que le tribunal de commerce a annoncé un assez grand nombre de faillites, hein, d'entreprises. Est-ce que ça a forcément une répercussion sur, enfin j'imagine sur le au Conseil des prud'hommes?
Alors il peut
comment
y en avoir.
Ressentez-vous en tout cas?
Il peut y en avoir et il y en a. Bon. Un petit peu, puisque aujourd'hui, après le Covid, il y a des sociétés qui ont quelques difficultés à faire face, notamment
au remboursement du prêt
du prêt garanti par l'État. Il y a les faillites d'entreprises qui sont en progression. Et donc ça engendre des difficultés, des salariés qui avant hésitaient à aller au conseil de prud'homme, mais aujourd'hui, puisque il y a une procédure collective, un redressement, une liquidation, ils sont plus enclins à vouloir saisir le conseil de prud'homme et remettre en cause, par exemple, le forfait jour, tout particulièrement pour les cadres, qui aujourd'hui, lorsque la rupture du contrat de travail a été consumée, n'hésitent pas à formuler des demandes devant les conseils de prud'hommes, de remettre en cause la convention de forfait jour et de solliciter en échange et en contrepartie des heures supplémentaires.
D'accord. D'accord. Donc là, ça crée une nouvelle.
C'est un exemple. C'est un exemple. Parce que là, je parle des cadres, puisque c'est la section dans laquelle j'exerce. Mais on le rend compte, oui, lorsqu'il y a des licenciements économiques, les cadres viennent, ils demandent des indemnités pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ou non respect des critères, ou non respect de la priorité de rembauchage si on est en redressement. Alors pas en liquidation, puisqu'il y a un arrêt d'activité, mais à l'encadrement, beaucoup de demandes de remise en cause du forfait jour. Pour obtenir des heures supplémentaires et des indemnités pour travail dissimulé.
Très bien. Alors, j'imagine que votre institution doit s'adapter aux évolutions législatives, technologiques. Qu'en est-il des barèmes qui ont été imposés par Emmanuel Macron?
Alors, ce barème est issu d'une ordonnance du 22 septembre 2017 qui a permis de définir l'article L1235-3 du Code du travail qui fixe un barème dit Macron avec un plancher et un plafond. Alors, ce barème a la particularité pour les juges lorsqu'ils sont délibérés et lorsqu'ils disent et jugent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de pouvoir regarder en fonction de l'ancienneté du salarié et du salaire et d'octroyer une indemnité en fonction du plancher et du plafond. La deuxième particularité de ce barème Macron, c'est que pour les entreprises de moins de 11 salariés, il y a un autre barème qui est un petit peu inférieur au premier que je viens de décrire, puisque les entreprises de moins de 11 salariés ont un petit traitement de faveur lorsque le juge octroie des indemnités, puisqu'il est moins agressif, si je peux me permettre ainsi, sur l'octroi des indemnités.
Peut-être une envie de simplifier justement ces indemnités de ça, la, non?
Alors,
lorsque
ce barème a été mis en place en 2017, il y a eu des conseils de prud'hommes et aussi des cours d'appel qui n'en ont pas tenu compte. On va dire que c'était des juridictions un petit peu rebelles.
Oui, c'est ça, puisque vous dites que c'est le Conseil d'État qui a
alors c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation qui a néanmoins dit que le barème Macron était compatible avec la convention 158 de l'Organisation internationale du travail, dans son article 10, et également l'article 24. De la charte sociale européenne à partir du moment où le juge octroie une indemnité qui est en adéquation avec le préjudice subi par le salarié. Et ces juridictions, parfois, on dit non, le barème Macron ne répare pas l'intégralité du préjudice et en conséquence de quoi, on octroie des indemnités supérieures au plafond du barème Macron.
D'accord. Et aujourd'hui, ça c'était au début, mais est-ce que ce sont des cas que vous retrouvez encore aujourd'hui ou...
Alors, c'est une très bonne question. aujourd'hui, les avocats ont trouvé un petit peu la parade. Oui. Alors, soit ils sollicitent des dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Oui.
sur le fondement du code civil, hein, réparation d'un préjudice, soit ils demandent des indemnités d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel, de discrimination. Oui. Alors, s'ils formulent ces demandes, non seulement on n'est plus inséré dans la prescription d'un an pour saisir le conseil de prud'homme, puisque pour saisir le conseil de prud'homme, on est limité à un an pour faire une action devant la juridiction. Et si on demande des dommages intérêts pour harcèlement moral, sexuel ou discrimination, c'est-à-dire la violation d'une liberté fondamentale, on s'insère dans une prescription de 5 ans. Et ce qu'on constate, c'est que les avocats, lorsqu'ils demandent une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils savent que bon, le barème Macron, il est ce qu'il est, il existe, il s'applique, et il sollicite en plus, c'est ce qu'on appelle l'effet tiroir, oui. Des dommages-intérêts pour préjudices distincts, dommages-intérêts pour harcèlement moral.
C'est ça. Ça a ouvert la porte à d'autres, voilà. D'autres demandes.
Et parfois, on se rend compte qu'on a 15 ou 20 chefs de demande devant le conseil des prud'hommes, alors qu'on est uniquement sur un simple licenciement. Et du coup, les avocats demandent un certain nombre de choses. Ouais. C'est leur droit.
Oui, oui.
Et le juge, dans le cadre de après avoir écouté les affaires, dans le cadre du délibéré, il décide d'octroyer ou pas. Le juge est souverain dans sa décision, bien évidemment.
Je suis très impressionnée, Jean Cazal, parce que je comprends que vous connaissez parfaitement les arcanes, hein, de votre juridiction.
C'est très gentil.
Jeanne, vous vouliez ajouter quelque chose?
C'est important que et Jean et Marine, en tant que juges, n'ont pas de vocation à commenter l'opportunité d'une loi. Ils peuvent
bien
la présenter,
sûr,
etc.
Évidemment.
Mais on parlait de doctrine tout à l'heure. C'est vrai pour certains mandataires, c'est vrai pour nous, MEDEF, etc. Mais voilà, il y a une grande vigilance là-dessus. Et évidemment, ils font preuve d'une objectivité et d'une neutralité totale sur ce genre de sujet. C'est important.
Je confirme. Alors, j'ai encore une question à vous poser, Jean, mais je propose qu'on fasse une courte pause et puis on se retrouve juste après.
Très bien, avec plaisir.
Les chiens errants courent sur les plages et le vent s'amuse à les faire s'envoler sous les néons de ton garage. Comment peux-tu voir le monde tel qu'il est? Viens, je t'invite à sortir voir les récifs sous la falaise. Viens, je t'invite loin des murs de ton HLM, si tu m'aimes. C'est la lumière, tu le rattrapes. T'as peur qu'il parte comme l'a fait ton père et qu'il neige en enfer. Viens, je t'invite à sortir voir le récif sous la falaise. On saura pas le monde ce soir, je vais pas te raconter l'histoire, mais je rêve des jours meilleurs. Je suis pauvre mais riche d'amour. On saura pas le monde ce soir. Je vais pas te raconter d'histoire, mais je rêve des jours meilleurs. Je suis pauvre mais riche d'amour à l'intérieur. On saura pas le monde ce soir. Je vais pas te raconter d'histoire, mais je rêve des jours meilleurs. Tu sais, je suis pauvre mais riche d'amour à l'intérieur. Tu sais, je suis pauvre mais riche d'amour à l'intérieur.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct et ce matin dans notre spécial MEDEF du Val d'Oise, j'accueille Jean Cazal, président et vice-président du Conseil des Prud'hommes de Pontoise, et Marine Lacaille, conseillère prud'homale au CPH de Pontoise, et bien sûr Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF du Val d'Oise. Alors Jean, on a bien comment décrypter cette fonction de mandataire et puis ce conseil des prud'hommes. Il y a forcément un taux d'appel quand les jugements sont rendus. Quel est-il ?
Alors, le taux d'appel au plan national est d'environ 55%.
D'accord.
D'appel. Ah, oui. Alors, ce qui, en somme, est un petit peu logique, puisque celui qui perd, il n'est pas content avec la décision.
Forcément.
Parfois même, c'est un traumatisme pour celui qui perd. Ça peut être l'employeur, ça peut être le salarié. Et donc, en théorie, mais ça reste de la théorie, on devrait être à 100% d'appel. Mais on ne l'est pas, bien évidemment, puisqu'il y a des gens qui comprennent la décision, d'où l'importance de bien motiver une décision.
Oui,
c'est très important.
C'est très important.
Parce que le justiciable, qu'il soit salarié ou employeur, lorsqu'il reçoit la décision, ce qu'on appelle un jugement, il va le lire, il va essayer de comprendre la position du juge et pourquoi le juge a pris telle décision. Mmh. Et s'il l'a compris, à ce moment-là, il va être plus enclin en disant « je ne vais pas interjeter appel puisque j'ai compris la décision ». Donc, en théorie, on devrait être à 100%. Mais bien évidemment, on n'est pas à ce stade. Le taux d'appel national est de 55%. En ce qui concerne le Conseil de Prud'homme de Pontoise, on est autour de 30-35%. Donc, ce qui veut dire que on prend quand même des décisions assez conformes aux règles de droit et que les justiciables comprennent. Donc on a 30% de taux d'appel.
Parce que justement une de mes questions c'était est-ce que vous avez le sentiment que les justiciables ont une vision vraiment objective de la justice ?
Alors les justiciables depuis qu'on a introduit la fameuse requête introductive d'instance, on a modifié un petit peu les règles de saisine des conseils de prud'homme et les justiciables font plus appel aux avocats qu'avant. Donc c'est assez complexe hein, de remplir une requête puisqu'il faut la faire en deux exemplaires, déposer des pièces avec un bordereau de communication de pièces et motiver un petit peu sa requête en fait et en droit. C'est un peu technique et les justiciables, donc en règle générale, on va dire les salariés qui saisissent à 80-90% les conseils de prud'hommes, parce que j'attire quand même l'attention que les conseils de prud'hommes, ce n'est pas uniquement réservé aux salariés pour saisir les prud'hommes. Les employeurs peuvent saisir également le conseil de prud'hommes. Et c'est un peu technique, et ce qui veut dire que, on va dire que 80% des cas, les justiciables font appel à des professionnels du droit qu'on appelle des avocats, ou des défenseurs prud'homaux qui sont désignés et qui peuvent intervenir tant devant les conseils de prud'hommes que les cours d'appel et qui sont désignés donc par les organisations syndicales de salariés et également d'employeurs. Dans la région, il y a très peu de défenseurs prud'homaux qui représentent les employeurs, mais il y en a. Ils sont une dizaine, mais ils ont quand même la possibilité de plaider devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel. C'est la particularité, puisqu'aujourd'hui, un justiciable, lorsqu'il vient tout seul devant un conseil de prud'hommes, il peut plaider tout seul, mais il ne pourra pas plaider son affaire en appel.
En appel, d'accord. Ouais. Ouais. Il est obligé d'être accompagné.
Tout à fait.
Oui. Alors, il y a des nouvelles règles juridiques et je crois que vous souhaitiez nous en parler, Jean Cazal.
Oui, alors pour la nouvelle mandature 2026-2029, on a une loi, hein, loi justice du 20 novembre 2023 qui apporte un certain nombre de contraintes à l'exercice du mandat prud'homal et elles sont au nombre de 3. Donc, il y a une limite d'âge pour être conseiller prud'homme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter si on a plus de 75 ans. Si on a 74 ans, on peut se présenter, mais si en 2026 le conseiller atteint l'âge de 75 ans, il devra se retirer, il sera démissionnaire d'office le 31 décembre 2026.
D'accord.
Voilà, donc il y a une limite d'âge de 75 ans. Il y a une autre contrainte, c'est celle de ne pas exercer sa fonction de conseiller prud'homme plus de 5 mandats au sein du même conseil de prud'homme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les organisations syndicales de salariés comme d'employeurs devront faire attention et demander aux candidats s'ils ont exercé plus de 5 mandats au sein de la même juridiction.
Ils doivent s'en assurer avant, oui.
Et enfin, la troisième particularité de cette loi, c'est que les conseillers prud'hommes, lorsqu'ils seront nommés donc au mois de décembre 2025, ils auront un délai de 6 mois pour présenter une déclaration d'intérêt. Alors l'arrêté n'est pas encore sorti, on ne sait pas trop ce qui prévoit cet arrêté, mais ils devront faire état ils doivent mentionner les liens et les intérêts de nature à influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions qu'il a exercées au sein des 5 dernières années.
D'accord.
Ce qui veut dire que ils devront faire une déclaration d'intérêt auprès du président ou du vice-président du conseil de prud'homme dans un délai de 6 mois, et sinon il y a une peine de prison qui est prévue.
Ah, tu peux être à la clé.
Ah ouais. Oui, avec une amende de 45 000 euros d'amende s'ils ne le font pas. Et pour le président et vice-président, ils devront faire cette déclaration auprès de la cour d'appel, du premier président de la cour d'appel. Voilà un petit peu les 3 nouveautés pour la nouvelle mandature.
Et cette je parle pas de la limite d'âge parce que je crois que c'est au tribunal de commerce aussi ils ont imposé 75 ans il me semble, mais par rapport à cette déclaration obligatoire d'une déclaration d'intérêt, c'est parce qu'il y avait quelques dérives ou
je ne suis pas dans la tête du législateur lorsqu'il a créé cette loi, mais c'est certainement pour donner plus de légitimité aux conseillers prud'hommes d'être impartial et de juger en application des règles de droit et de ne pas faire droit à des consignes extérieures des syndicats, etc. C'est pour avoir plus d'impartialité.
Bien sûr.
Dans les actions, les faits des gestes et notamment les décisions qui seront prises au sein des conseils des prud'hommes par les conseillers.
Merci Jean Cazal, c'était vraiment très clair. Et peut-être, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre?
Non, mais on va voir tout à l'heure. Marine Lacaille a quelques mots. Enfin, je termine juste que le préalable de lorsqu'on saisit le Conseil de prud'homme, ce n'est pas d'avoir un jugement. Le préalable, c'est une conciliation. Mm-hmm. Et c'est pour ça que au sein des conseils de prud'homme, on commence par un bureau de conciliation et d'orientation. On essaie de trouver une solution à l'amiable, ce qu'on appelle une tentative de conciliation. Et il y a des textes qui prévoient un certain nombre d'avantages pour le salarié lorsqu'il concilie devant le conseil de prud'homme. Il n'y a pas de différé d'indemnisation à France Travail. Il y a une exonération de charges sociales et patronales et également une possibilité aussi de d'être exonéré fiscalement au niveau de l'indemnité. Alors il y a un barème
pour inciter un petit peu à la médiation, c'est ça?
À la médiation, c'est-à-dire que on négocie si on trouve un terrain d'entente en conciliation, il n'y a pas de différé d'indemnisation à France Travail et fiscalement c'est très rentable et profitable pour le salarié. Alors la médiation, c'est autre chose. Alors elle a le mérite aussi d'exister, et en bureau de conciliation, le conseil de prud'homme peut aussi proposer une médiation, d'aller voir un médiateur, un professionnel, pour essayer de trouver une issue au litige avec ce médiateur. Mais ça, c'est dans les mesures d'instruction que le conseil de prud'homme peut. Voilà. Mais je pense que Marine Lacaille voudrait dire quelques mots là-dessus.
Je vais la laisser. En parler parce que je vais demander des chiffres à Marine sur ces.
Oh non.
Sur ces. si. Merci infiniment, Jean Cazal, pour cet échange instructif et puis votre engagement au sein du collectif, du CPH.
Merci
à vous. On marque une nouvelle pause et puis je vais donner la parole à Marine dans quelques instants. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype. I won't just conform. No matter how you shake my core,
unconscious through the madness and chaos. So I call on my angels. They say, oh, you have so little faith.
Écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
C'est toujours notre spécial MEDEF Val-d'Oise avec cette mise en lumière sur les mandats patronaux. Et ce matin, le Conseil des Prud'hommes, donc en compagnie de Jeanne Beury-Josselin, déléguée générale MEDEF Val-d'Oise, Marine Lacaille, conseillère prud'homale au CPH de Pontoise, et Jean Casal, président et vice-président selon du Conseil des Prud'hommes de Pontoise. Alors Marine, donc on a déjà bien décortiqué cette juridiction du Conseil des Prud'hommes. Je crois que déjà, je vous laisse vous présenter, Marine, qu'on sache qui vous êtes.
Donc bonjour et merci Jacqueline. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le rôle des conseillers aux Prud'hommes et des prochaines mandatures. Alors pour ma part, Marine Lacaille, je suis conjointe collaboratrice d'une affaire familiale avec mon époux, avec une petite TPE depuis 30 ans dans la prestation de services. Et c'est vrai que conseiller prud'homal, pour moi, c'est une responsabilité, une fonction de justice, une participation directe au respect du droit du travail dans des litiges concrets entre des employeurs et des salariés. On dit que la vie est une affaire d'hommes et de femmes. Moi, j'ajoute que la justice sociale aussi. Au niveau de conseiller prud'homal, effectivement, on passe par une première étape, c'est-à-dire la saisine au niveau du tribunal et qui permet aux deux parties d'être convoquées et de pouvoir venir s'expliquer sur un litige qui est en cours de contrat de travail ou qui est après une décision de rupture, quelle qu'elle soit, des deux côtés. À l'occasion du bureau de conciliation, on reçoit les parties. Ils peuvent être accompagnés d'avocats, ils peuvent être accompagnés de défendeurs syndicaux. Et ils expliquent le litige qui les oppose, qui sont de toute nature. Comme l'a dit précédemment Jean, effectivement, il y a 90% de salariés contre à peu près 10% d'employeurs, parce que les demandes ne sont pas les mêmes, évidemment. Et pendant cette période de conciliation, il est important que les parties sachent qu'ils sont là, on les écoute, on les accompagne, on partage le litige. Donc déjà, ça va devenir important, c'est que la plupart du temps, ils se revoient pour la première fois après le litige qu'ils ont pu avoir auparavant. Mmh. Donc, il peut y avoir une certaine tension, il peut y avoir une certaine défiance, oui, méfiance, oui. Retenue, ou au contraire, des fois, faut arrêter un petit peu. Après, c'est s'ils ne sont pas représentés, puisqu'en fait, on l'a déjà dit en début d'audience, on peut se représenter seul. Il vaut mieux quand même être accompagné. Oui, il vaut mieux. Et pendant cette période de conciliation, bah effectivement, il va y avoir spécifiquement à Pontoise une période de mise en état qui permet de faire des calendriers, qui permet d'échanger des pièces et surtout que les parties continuent à tenter de se concilier, puisqu'en fait chacun devra reprendre quand même sa liberté pour continuer dans son quotidien, et on a même des avantages fiscaux à pouvoir concilier avant de terminer un bureau de mise en état. Je ne dis pas que c'est une majorité de cas.
Alors, c'est la question que je voulais vous poser en vous écoutant. Je me disais, est-ce que cette incitation fiscale fait que beaucoup vont dans cette direction?
Peu, malgré pas tout. Assez, à oui. mon sens, parce qu'à un moment donné, la médiation, nous, sur le fond, quand on a mandaté et qu'on a été nommé, on vient écouter, on vient faire une mission de service public, mais au bout du bout, quand on arrive en bureau de jugement, on sait que chaque décision que nous rendons, elle peut impacter une vie,
bien sûr,
une entreprise et un avenir.
Et puis alors peut-être que cette médiation, le salarié ou l'employeur ne va pas trouver qu'elle est satisfaisante parce qu'il espère peut-être plus d'indemnités. En fait, c'est ça le problème.
Alors quand on est dans la médiation, il y a un dialogue qui s'instaure et on est dans un endroit qui rend la justice. Et du coup, on entre dans une voie exigeante, mais qui est quand même profondément utile. Parce que si on avait systématiquement besoin de faire appel aux tribunaux et à la justice pour caler la fin d'une histoire, bah pourquoi on le fait pas quand on la démarre?
Bien sûr, bien sûr. Et donc vous, c'est peut-être le message que vous donneriez à une personne qui envisage de saisir le Conseil des prud'hommes, d'aller vers cette médiation?
Oh, je me garderais bien de porter des conseils à quelque partie que ce soit. Par contre, oui. Un conseil, c'est à un moment donné, c'est d'adhérer, d'être près des organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou salariales, d'être fier d'être dans des fédérations nationales, parce qu'on a avant tout des métiers, des actions, des rôles. On se lève le matin et on a envie d'avancer. Quand on est un entrepreneur, on n'est pas forcément un employeur. Par contre, quand on est un employeur, on est forcément un entrepreneur. Et un entrepreneur, dans sa tête, il y a des buts qui ne sont pas les mêmes que dans la tête d'un employeur et qui ne sont pas les mêmes que dans la tête d'un salarié.
Oui. Est-ce que, justement, il pourrait y avoir des, malgré la sélection que vous faites, vous rencontrez des entrepreneurs qui sont pas forcément disponibles et qui connaissent pas forcément les conséquences de leurs actions?
Alors, on a des plannings qui sont faits à l'avance. On a dans le Val d'Oise 3 juridictions. Donc en fait, un entrepreneur, quel qu'il soit, le temps qu'il va pouvoir accorder sera toujours précieux puisqu'il travaille pour l'intérêt de son activité dans le reste du temps. Ouais. Après, effectivement, on pourvoit à nos remplacements. Il y en a qui sont plus disponibles que d'autres. Il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des jeunes retraités. L'important, c'est l'investissement qu'on veut y donner chacun et chacune. Mmh. Et là, je parle pour l'organisation patronale qui m'a invité près de vous aujourd'hui, mais je parle aussi pour tout conseiller prud'homal qui se retrouve des fois devant des imprévus. Et à d'autres moments, c'est lui qui va pouvoir remplacer une autre personne qui est pas disponible.
Oui.
Et c'est comme ça que ça fonctionne également en organisation d'entreprise.
Bien sûr, bien sûr. Vous, c'est votre première mandature, Marine?
Ah non. Alors, non, j'ai prêté serment en 2018. Et à ce jour, je suis présidente de la section employeur, de la section commerce sur le collège employeur à Pontoise. Et c'est grâce à Jean, ici présent, que je peux continuer de me former, transmettre, partager, parce que c'est grâce à lui et à d'autres formateurs passionnés, parce qu'on se rend compte que finalement, à tout moment dans la vie, quand vous allez en entreprise, au bout d'un moment, c'est une famille. Quand vous arrivez au CPH, au bout d'un moment, c'est une famille.
Bien sûr.
Donc
bien
depuis 2018, on sait le jour où on rentre. Et après, c'est une aventure et c'est chacun qui met son cœur pour y trouver un intérêt d'y rester.
Une mandature, c'est 6 ans.
Alors, on va pas parler de savoir combien c'est au départ, parce qu'au départ, ce serait 3 ans.
Oui.
4 ans. Excusez-moi, c'est un lapsus. Mais suivant après ce qui peut se passer, ça peut être un petit peu extensible. Donc là, on va rentrer dans la mandature 2026-2029.
Et donc là, vous êtes déjà en train de recevoir les prochains candidats ?
Alors,
la sélection est faite ou pas encore ?
Non, la sélection ne dépend pas de l'organisme. Nous sommes finalement les acteurs qui vont arriver au moment où ça va se passer.
Oui, mais
en
je
amont,
veux dire, puisque...
dans les organisations patronales,
oui, d'accord.
On fait part de ceux qui sont déjà présents, de savoir s'ils renouvellent ou s'ils renouvellent pas. On fait part, et actuellement, il y a beaucoup de conseillers qui vont, hélas, s'en aller. Ça va nous faire un énorme changement parce que, bah, effectivement, le partage et la transmission du droit, ça change fréquemment par rapport aux décisions de cour d'appel, de cassation, et le fait de laisser partir nos anciens, ça peut être une nécessité pour un renouvellement. Oui. Mais pendant ce temps-là, il y a aussi des acteurs qui sont déjà présents et qui vont être renouvelés dans leur mandat. Mais là, on ne le sait pas parce
vous
que ça
pas.
Nous appartient pas au niveau de l'organisation du Conseil des Prud'hommes. C'est en amont et c'est fait par les organisations patronales, comme on vous l'a déjà précédemment indiqué.
Alors, les nouvelles règles juridiques disent qu'on ne peut pas aller au-delà de 5 mandatures, c'est-à-dire que ça représente à peu près 20 ans. C'est ça ?
Même un petit peu plus.
Même un petit peu plus.
C'est toute une vie.
C'est la durée du mandat. C'est un autre débat.
En fait, voilà, c'est ce qu'on vous disait. Le mandat au départ fait 3 ans et il est arrivé. Moi, je suis arrivée juste après un mandat qui avait duré 9 ans.
Ah oui ? Mais comment c'est possible ça ?
Par des renouvellements, parce qu'à un moment donné, on n'arrête pas la situation. Ah. Et à force de demander des extensions. Moi, je suis arrivée donc sur la mandature 2018. Et ça, effectivement, ceux qui étaient précédemment venaient d'avoir 9 ans.
D'accord. Jean Cazal, vous vouliez dire quelque chose à propos de cette...
Oui, alors il y a eu 9 ans, puisque du coup le gouvernement n'a pas voulu procéder au renouvellement des conseillers. C'est aussi une question de budget, en fait. Voilà, c'est une question de budget. Et donc, effectivement, comme dit Marine, il y a eu 9 ans de mandature pour les conseillers prud'hommes qui ont quitté leurs fonctions en décembre 2017.
Très bien. Donc, les prochaines élections, c'est 2026, c'est ça ?
Nomination.
Voilà. Désolée pour l'écart de langage. Les nominations, donc, en 2026. Vous vous représentez, Marine ?
Bien sûr.
Oui. Jean ?
Tout à fait. Si le MEDEF veut bien de moi, en fait.
Vous. Je dis la même chose, en fait. Hein.
Je crois qu'ils sont plutôt en bonne posture.
Ça va.
Merci, Jeanne.
Mais ce n'est pas moi qui décide. Et comme l'a rappelé Jean très utilement, on propose une liste.
Oui, oui.
Les ministères nomment. Et voilà, il y a quand même tout un parcours. Il n'y a pas d'automatisme. Bien sûr, pour des conseillers qui ont déjà siégé, dont on connaît le sérieux, la probité et l'engagement, c'est beaucoup plus simple pour nous de les représenter
bien évidemment.
Ensuite.
Ouais, très bien. Oui, Marine.
Je veux bien rajouter, Jacqueline, justement, c'est que vous aviez pas tout à fait tort. Je suis en train de regarder sur mes notes et en fait, jusqu'au 31 décembre 2017, le CPH, c'était bien une juridiction élective. Ah. Et c'est depuis le 1er janvier 2018 que les conseillers sont nommés pour 4 ans par le ministère de la Justice et le ministre du Travail sur les propositions des organisations syndicales et professionnelles. Donc peut-être que justement, il y avait un petit lapsus qu'il fallait soulever.
Très bien. Bah, écoutez, merci de me réintégrer dans la bonne voie. Vous disiez aussi, Marine, ça sera ma dernière question, que la situation économique est nébuleuse, incertaine, mais elle n'empêche pas les entrepreneurs d'avancer et d'entreprendre.
C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, il me semble, par rapport aux contacts qu'on peut avoir, par rapport à, effectivement, cette situation économique qui est nébuleuse, qu'on soit professionnel ou pas dans la politique ou dans l'action économique, l'action sociale, l'action culturelle, c'est nébuleux à tous les niveaux. Quand nos parents et nos grands-parents pouvaient regarder à 2 ou 3 ans devant eux, Aujourd'hui, on ne le peut pas.
C'est beaucoup
pendant
plus
ce temps-là, il faut continuer d'avancer. Et à partir du moment où les gens ont des idées, à partir des gens, du moment où certaines personnes ont envie d'entreprendre, on se doit de les aider et on se doit de rester optimiste tout le temps. Parce que finalement, c'est un peu notre ADN. Mmh. L'humain est optimiste par nature.
Ouais. Merci infiniment Marine Lacaille, merci d'avoir répondu à mes questions puis d'être venue partager avec nous ce quotidien de chef d'entreprise et de mandataire. Alors l'émission se termine dans quelques minutes. Il y a une petite tradition à l'économie en direct, si je vous redonne la parole avant qu'on se quitte définitivement. Jean Cazal, je vous redonne la parole si vous avez quelque chose à ajouter.
Oui, merci beaucoup. Oui, deux sujets très rapides. C'est sur la formation. La formation des conseillers prud'hommes. Faut en parler quand même, puisque c'est important. Il y a une formation qui est obligatoire. Les conseillers prud'hommes doivent effectuer une formation de 5 jours, 3 jours en e-learning, donc devant un ordinateur. Ça dure 3 jours. Et ils ont une formation de 2 jours par une formation en présentiel dispensée par l'École nationale de la magistrature.
C'est ça, l'ENM, oui.
À défaut d'effectuer cette formation de 5 jours, ils seront réputés démissionnaires s'ils ne font pas cette formation dans un délai de 15 mois qui suit le deuxième mois de leur nomination.
D'accord.
Ce qui veut dire qu'ils ont 15 mois à partir du mois de février 2026 pour effectuer cette formation. Par ailleurs, les organisations syndicales de salariés dispensent des formations, celles des employeurs également, dont le MEDEF via une autre association. Et ça, c'est très bien, puisque ça permet d'avoir, de faire le point, d'échanger avec d'autres conseillers, d'autres juridictions, puisque c'est ouvert aux autres juridictions et aux autres conseillers prud'hommes d'autres organisations patronales. Toutefois, ce que je déplore un petit peu, c'est que l'ENM ne dispense pas un peu plus de formation.
Ah oui. Vous pensez que ce serait nécessaire?
Oui, une sorte de formation continue, c'est-à-dire avec peut-être une formation obligatoire de 5 jours par an pour faire le point de l'actualité, oui, des jurisprudences.
Une mise à jour un petit peu.
Exactement. Oui. Une sorte de veille juridique. Bon, là, c'est ce que je reproche un petit peu, c'est de ne pas avoir une formation dispensée en plus de celle dispensée par les syndicats. Et enfin, l'autre thème très rapide, c'est que on constate devant les différents conseils de prud'homme en France, et tout particulièrement à Pontoise, que lorsqu'il y a une procédure collective, un salarié saisit le conseil de prud'homme, il vient au bureau de jugement, puisque quand il y a une procédure collective, c'est directement le bureau de jugement, on ne passe pas par la case bureau de conciliation, puisque c'est prévu par le code de commerce, et les salariés se retrouvent avec leur avocat, et l'entreprise n'est pas représentée. Elle n'est pas représentée, puisque en cas de redressement, c'est l'administrateur judiciaire et les AGS qui sont là pour garantir leurs créances. Mmh. Et en cas de liquidation, c'est le mandataire qui doit être présent, ainsi que les AGS. Et très souvent, j'insiste sur très souvent, ça a fait partie de mon discours lors de l'audience solennelle, c'est que je regrette, à titre personnel, que le mandataire ne représente pas les intérêts de la société qui est défaillante en cas de liquidation, et que les AGS qui garantissent les créances, qui sont un intervenant forcé, ne soient pas présents.
Ouais.
Et on se retrouve dans le cadre d'une configuration où le salarié est tout seul. Il demande des heures supplémentaires. Alors, je suis pas en train de dire qu'il les a pas faites.
Non,
néanmoins,
je comprends.
C'est délicat. C'est qu'il y a personne en face. Mm-hmm. Et par conséquent, les conseillers prud'hommes, parfois, ils se disent, il y a personne en face, donc on sait pas. Et qu'est-ce qu'on fait?
Oui,
voilà. Sans préjuger de la décision. Mais, voilà, c'est délicat pour les conseillers quand il y a personne en face. Et on a qu'un seul, un seul son de cloche, le salarié qui réclame des heures sup. Et il y a personne qui vient répliquer et dire s'il les a fait ou pas. Voilà.
Ça veut dire qu'il faudrait peut-être mettre une mesure répressive pour inciter ces personnes à être présentes.
C'est très dommage la société ne soit pas représentée, puisque le mandataire de fait représente les intérêts de la société défaillante et les AGS qui en principe viennent garantir leurs créances, puisque ils sont en quelque sorte l'assureur et qu'ils soient absents tous les deux. Et donc du coup ce que je déplore, c'est que leur présence ne soit pas là lors des bureaux de jugement. Voilà, c'est regrettable.
Vous avez raison de le préciser, c'est très important. Merci infiniment, Jean Cazal.
Je vous en prie, merci de m'avoir invité.
Je vous en prie. Marine, un mot de conclusion.
Le mot de la fin, pour ma part, ce serait quand même d'inviter tous ceux et celles qui finalement ont écouté ce qu'on évoquait aujourd'hui avec Jeanne, de se dire que même s'ils sont dans leur voiture et qu'ils se sentent seuls à devoir tenir les rênes de leur entreprise, il faut qu'ils adhèrent à des organisations, à des fédérations pour qu'ils soient représentés, et parce qu'il doit y avoir une certaine reconnaissance de ce travail-là. Et après, s'ils souhaitent s'investir dans différentes ficelles qu'il peut y avoir au sein de ces organisations, bah, qui proposent.
Parce qu'à
un moment donné, avant d'arriver, on ne connaît pas. Donc, on est forcément débutant. On est accompagné. Et après, bah, si ça nous plaît, ça devient un centre d'intérêt supplémentaire. Et à un moment donné, ça nous permet aussi, de temps en temps, de pouvoir penser à autre chose que ce nombrilisme où on est toujours happé par des charges, par
On parle toujours de la solitude du chef d'entreprise, et là c'est vraiment l'occasion de la rompre, quoi.
Exactement, ouais, exactement.
Merci infiniment, Marine Lacaille, pour votre venue avec Jean Cazal.
Merci.
Jeanne, le mot de la fin est pour vous.
Un peu dans le même sens que Marine, effectivement, je dirais engagez-vous, puisque si vous ne vous engagez pas, ce qui peut être votre choix, il y a forcément un jour, vous aurez un problème, une question qui sera liée à un mandat, parce que l'URSSAF, France Travail, etc. En s'engageant, vous aurez des contacts directs avec des gens qui savent comment ça se passe, non pas qui feront du favoritisme, mais qui pourront vous conseiller, vous orienter, et c'est important, on en a toujours besoin en tant que chef d'entreprise, et surtout, voilà, ne pas rester seul, c'est important, surtout dans la période actuelle, c'est une vraie force de pouvoir compter sur d'autres chefs d'entreprise qui ont une autre expérience ou traversent la même chose pour progresser.
Complètement, et comme le disait la personne là qui est en charge du recrutement des mandataires au MEDEF, il dit que c'est une école de la vie en fait, de pouvoir faire ses mandats. Merci infiniment, merci à tous les trois d'avoir pu mettre en lumière l'importance de votre juridiction, comme j'ai déjà dit, compétente pour régler les litiges individuels en droit du travail. Merci infiniment.
Merci Jacqueline de l'invitation.
Merci bien sûr à nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis, comme à chaque émission. Merci Nicolas pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et retrouvez son podcast sur le site idfm98.fr. Vendredi, je vous donne rendez-vous à 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct avec encore de nombreux invités. Bonne journée et bonne semaine.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio. Venez participer à Champs en Fête, le comice agricole de Gisors. Un week-end pour découvrir l'agriculture en famille. Le samedi 14 et dimanche 15 juin de 10h à 18h. Deux journées pleines de découvertes au cœur de l'agriculture et des traditions locales, avec une mini-ferme, du théâtre, un marché de producteurs et d'artisans, une guinguette, des tours de tracteurs, déambulation de chiens de troupeau, des expos, une structure gonflable, des dégustations et bien plus encore. Champs en Fête à Gisors, route du Bois-Gelou. Entrée 6 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Plus d'infos sur les réseaux sociaux Champs en Fête ou sur idfm98.fr.
Et si votre bien-être commençait aujourd'hui ? Chez Tandem Santé, on fabrique depuis 1996 des compléments alimentaires naturels, efficaces et surtout de grande qualité. Commandez en ligne sur tandem-santé.com, recevez votre colis en 24 à 48 heures ou passez le prendre directement à Montlignon, au cœur de la nature, grâce au Click and Collect. En prime, profitez d'une balade au vert et de 10% de réduction avec le code RADIO, R-A-D-I-O, jusqu'au 30 juin. Tandem Santé, des solutions naturelles proches de vous et de vos besoins.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, à retrouver tous les mardis donc de 18h à 18h30. L'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.